L'actu littéraire sur Cosmic FM, présenté par Victoria Camp.
Bonjour et bienvenue sur Cosmic FM pour une nouvelle émission de l'actu littéraire. Alors, j'accueille à nouveau Lola.
Bonjour.
Et nous allons aborder deux livres aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou, puis Max de Sarah Cohen-Scali. Donc, alors tout d'abord, Anne-Laure Bondou est une écrivaine contemporaine née en avril 1971. Elle a commencé d'abord avec sa passion d'écriture vers 9 ans, ce qui s'est développé dans son adolescence. Et elle a donc abandonné partiellement l'écriture pour se concentrer sur son bac littéraire, pour ensuite faire une licence de lettres modernes à Paris, et a envoyé plusieurs de ses manuscrits à plusieurs maisons d'édition qui ont été tous refusées. Puis son premier emploi, c'était à Bayer Press en 1996 en tant que rédactrice, et elle ne publie que 3 ans après son premier livre en 1999. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est abandonnée à l'écriture à temps plein. Et donc, elle écrit des romans jeunesse-adulte, et aussi des livres illustrés pour enfants, du théâtre et beaucoup de chansons. Donc alors, Les larmes de l'assassin se déroulent au Chili, en Patagonie. Et elle-même dit « Ce n'est ni un roman policier, ni un roman d'aventure, ni un roman réaliste, ni un roman psychologique, ni une fable, mais peut-être tout cela à la fois ». Alors, ce livre est original, parce qu'on n'a pas l'habitude de connaître... c'est le premier livre que je reconnais comme poétique, vraiment, en lui-même. Et donc, tout d'abord, c'est pas du tout poétique, le début du livre, parce qu'il s'ouvre sur le meurtre des parents d'un enfant qui s'appelle Pablo. Alors, ce certain Pablo va développer tout doucement une certaine relation...
Paolo. C'est Paolo.
Ah, Paolo, pardon. Il va développer une relation avec cet assassin. Ça tout base.
Ça va être une relation paternelle, en fait, finalement.
Voilà. Il va donc, au début, pas du tout le considérer comme son père. Et au bout d'un moment, on va tout d'un coup se mettre à l'aimer, à lui faire confiance. Et donc, toute l'histoire se base sur le meurtre. Et puis le développement de leur relation
et la capacité à d'une personne à changer de personnalité, finalement, de
voilà.
Reconversion vers le bien.
Tu l'as dit. Donc ce roman a été primé plus de 20 fois par multiples personnes, donc partiellement aussi des prix décerné par des jeunes qui ont lu ce livre, et a été traduit en plus de 14 langues depuis sa parution en 2003. Et donc, Anne-Laure Bondou a révélé que depuis juin 2005, elle travaillait sur une adaptation des larmes de l'assassin pour le cinéma. Donc, on a de quoi s'attendre à une nouvelle version de découvrir ce livre. Alors Lola, peut-être que tu veux nous lire un passage si...
Je sais pas, mais j'avais remarqué l'écriture très épurée qui correspond tout à fait au paysage, en fait, puisque rien ne pousse dans ce pays. On a une écriture donc très simple, très épurée du coup, qui nous fait beaucoup réfléchir finalement. On se questionne sur l'identité d'un père. Est-ce que c'est forcément génétique? Ou alors est-ce que juste l'amour entre ce père et ce fils qui est finalement adopté peut être viable en fait? Et comment l'existence d'un tiers, on a la place de l'argent aussi dans l'amour, comment est-ce que finalement on peut s'en sortir? Parce qu'on peut toujours s'en sortir. Et l'abandon aussi, faire différentes façons de voir... cet amour de la famille.
mais il y a tout de même la criminalité de Angel Alegria, donc l'assassin, qui déteint un peu sur Paolo, parce que à un moment, Paolo va être mené à faire en quelque sorte un meurtre. Il va donc, pour sauver le meurtrier de ses parents, il va lui-même commettre un meurtre. Ce qui est relativement étonnant pour le jeune âge de Paolo, qui, je crois, ne dépasse pas les 10 ans. Et donc, il faut savoir aussi que Anne-Laure Bondou a écrit ce livre qui se situe au Chili, sans jamais y être allée. Et donc, elle a réalisé son rêve il n'y a pas longtemps pour se rendre justement au Chili, pour redécouvrir les terres desquelles elle a parlé dans tout ce livre.
On va peut-être lire juste le résumé, peut-être ? Donc, l'homme et la femme Paolo Verdo avaient un enfant qui poussait comme le reste sur cette terre. C'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les serpents. Il avait de la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être abattu par les rafales de vent, et s'appelait Paolo. Paolo, Paolo Verdo. C'est lui qui vit venir l'homme, là-bas, sur le chemin, par un jour chaud de janvier. Cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyage, et encore moins un poète. C'était Angel Alegria. Un truand, un escroc, un assassin.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? The wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
Donc voilà, alors je voulais également parler vite fait de la couverture qui est très très belle, je trouve. C'est très original, c'est simplement le paysage nu du Chili, du désert avec la maison en fond, avec une grande et une silhouette très massive de Angela Alegria et un peu plus loin une toute petite silhouette toute frêle de Paolo. Et c'est justement à partir de cette image-là que Anne-Laure Bondoux a écrit son livre, parce qu'au début, elle avait simplement cette image-là d'un grand homme et d'un petit enfant en tête, et c'est à partir de cette idée-là qu'elle s'est mise à écrire au courant de ses pensées, et c'en est devenu un roman, je trouve, très poétique.
Donc, magnifique, en fait. On est complètement pris dans l'histoire de cet enfant. On se demande s'il va survivre, et comment est-ce qu'il va arriver à vivre, surtout. Il est sidérant par son écriture simple et toute l'émotion qu'il arrive à faire porter.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
Votre fils veut peut-être un bonbon sans qui, la dame ? Paolo hocha la tête. Il ignorait ce qu'était un bonbon, mais il était prêt à tout accepter de cette gentille dame. Elle lui tendit une corbeille. Il regarda les papiers de couleur et en choisit un jaune. Puis, il fallut quitter la banque. À regret, Paolo boutonna son manteau et rentra la tête dans les épaules. En sortant, il serrait son poing sur le bonbon, bien décidé à le garder toute sa vie, comme un talisman. Le papier jaune, petit, éclat de soleil tombé du ciel, ne pouvait que lui apporter bonheur. Bon, alors, on passe au second livre, donc Max, de Sarah Cohen-Scali. Donc c'est on parle de fable historique fascinante et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Bon, alors une fable historique, c'est une fable à contexte historique. Je pense que on peut pas parler de fable parce que finalement c'est tellement atroce que
c'est plus un documentaire, je dirais.
Ouais,
un documentaire romancé.
Ouais,
si on peut dire
et pourtant
ça.
On parle de contexte historique, mais c'est pas le contexte historique qui a toute sa place. Là, c'est l'histoire qui parle dans ce livre finalement. C'est la voix de cet enfant en fait parle de manière historique. En fait, c'est lui qui raconte l'histoire. particularité de ce livre, c'est un fœtus qui nous parle, qui raconte sa vie et qui évolue petit à petit sous nos yeux. Qui grandit, qui apprend des choses, qui s'étonne souvent et qui nie de bloc toute l'atrocité nazie. Donc on parle d'une déshumanisation complète de cet enfant, donc le bébé qui est un symbole de pureté et de douceur et finalement nous parle de l'élimination de ses camarades. Parce que ils n'étaient pas conformes en fait aux réglementations ariennes. Donc c'est choquant quand on a l'impression que ce bébé n'en est pas un finalement. Quand il se pose des questions sur sa maman, comment est-ce qu'il va finalement la quitter parce qu'elle lui fait du mal dans le sens où il l'aime, donc il faut supprimer cette source d'amour. Ce qui est tout à fait aberrant finalement. Donc c'est bébé SS, donc c'est une histoire vraie en fait. Hein. Dans le courant des années 1940-41, on a mis en place donc ces Heim dans les pays qui étaient occupés. Et il a été mis en place par Heinrich Himmler en 1936 en Allemagne. Donc c'est le programme Lebensborn, donc Leben vie et Born fontaine, donc traduction fontaine de vie. Donc c'était pour avoir des enfants pure race, donc des Aryens modèles. Et Max est le premier prototype de ce programme-là, puisqu'il va naître en fait le premier et être parfait. Donc au début, on demandait aux femmes correspondant aux différents critères de venir accoucher dans ces heims. Donc elles accouchaient et puis elles laissaient leurs enfants en fait qui étaient soit adoptés soit envoyés dans d'autres écoles nazies et donc abandonner son enfant, on leur demande de laisser leurs enfants,
on leur l'arrachait carrément,
on les prenait,
on les renvoyait, on les rejetait du heim à ce moment-là.
Donc c'est hard quand même quand on voit qu'il y a des filles de 15 ans qui venaient qui avaient été sélectionnées, on leur demande de porter des enfants en fait à 15 ans et d'être une machine d'accoucher, c'est c'est difficile. Et finalement, c'était le moins pire parce que dans les pays occupés, on arrachait les enfants à leur famille. Donc des enfants polonais, des enfants ukrainiens, des pays de Baltes aussi. Donc on estime que le nombre arraché à leur famille s'élève à presque 200 000 qui n'ont pas tous retrouvé leur famille après la guerre. Donc c'est spécial. Et pourtant, donc Konrad von
Knebensol,
donc notre personnage principal est fictif, mais tout le reste est vrai, ce qui est d'autant plus dérangeant. Donc ces puretés raciales, on retrouve les trois cas en fait de Hitler, donc Kinder, Küche, Kirche, donc les enfants, la cuisine, l'église, qui finalement résume la vie de ces mères porteuses. Finalement, on pourrait revenir sur le débat de ces mères porteuses aux États-Unis, puisque c'est finalement ça. Donc c'est la déshumanisation est telle que je vais vous lire un extrait qui est absolument dérangeant, choquant. Et puis, je viens à peine de réussir à me détacher d'une mère. Je viens de rayer le mot « maman » de mon vocabulaire. Vous avez été témoin de ce que cette épreuve m'a coûté. J'ai été malade, j'ai maigri, j'ai douté, j'ai eu peur. J'ai failli être embarquée dans la camionnette de livraison. Alors, avoir une autre mère, une mère adoptive, quel intérêt? Je me pose des questions sur ce qu'on attend de moi. Va-t-il falloir simuler l'amour pour cette mère? Comment? Je crains de ne pas y arriver. Je n'ai pas été conçue pour cela. Donc ce rejet d'aimer des gens comme une mère, finalement.
C'est au final cet amour qui lui manque pour une mère qui va le mener à essayer de trouver un frère parmi les autres enfants nés dans ses heims.
Pas nés, qui a été arraché
oui,
à leur famille en fait. Donc ça se passe. Le livre est découpé en quatre parties en fait. Donc la première partie c'est de 0 à 4 ans.
De sa naissance.
Non, jusqu'à...
je pense qu'il a 7 mois à la fin. Enfin, cette partie se situe dans un âge très jeune.
Ouais.
Et même dans le ventre de la mère.
Il est encore un fœtus, ouais. Donc jusqu'à ses à peu près 4 ans. Quand il a eu 4 ans, il a été affecté à une mission secrète en Pologne. Donc il était chargé en fait de repérer des enfants qui pourraient correspondre au type aryen. Donc il les repérait et une autre organisation s'occupait de les enlever pour les emmener dans ses heims. Ou dans d'autres écoles nazies en tout cas. La deuxième partie traite donc de cette partie-là. La troisième, on est dans la Napola. Donc dans une grande école militaire nazie qui d'ailleurs a été détruite pendant la guerre. Donc celle-ci est à Berlin. Et la dernière partie traite de la débâcle et donc de l'arrivée des Russes puisque du coup ils se sont échappés de la Napola et errent dans les villes en trouvant quelques refuges. Donc on va parler peut-être de la rencontre avec Lucas.
Lucas, oui.
Donc...
j'ai lu le livre ce passage est d'autant plus étonnant parce que justement son amour pour sa mère a été arraché, il n'a plus aucun lien avec sa mère et il cherche quelque part d'autre de la famille et cette famille il va la trouver dans Lucas. Donc Lucas, sa première rencontre est plutôt étonnante, c'est lors d'une sélection pour voir si Lucas correspond vraiment au modèle aryen, donc les cheveux blonds et les yeux bleus et la peau très claire.
Une taille de nez, une taille d'oreille, une largeur du menton,
toutes
largeur du front.
Les caractéristiques qui sont attribuées aux Juifs à cette époque et il va y retrouver son frère. Et donc ils vont créer une sorte de liaison, ils vont souvent se disputer et tout de même rester très proches. Et est-ce que je suis censée révéler l'élément décisif?
Et finalement, Lucas est juif. Comment peut-il correspondre exactement à tous ces critères puisqu'il est quand même parfait, il est grand, il est fort et il est très bon dans tous les sports, dans toutes les matières qui sont enseignées dans ces centres. Et finalement, il est juif. Et ça chamboule, en fait, tout les...
La vision de Conrad.
La base, ouais, de Conrad. Donc, alors déjà, on n'a pas expliqué pourquoi est-ce que le livre s'appelle Max et l'enfant Conrad. Max, c'est le nom, en fait, que va donner la maman à son bébé. Et Conrad von
Knebersen.
Et en fait, le nom de baptême que lui donne le Führer.
Le Führer en personne, vu que Max, alias Conrad, est considéré comme le premier de sa lignée. Donc le premier enfant idéal, et c'est justement, il a l'honneur de se faire baptiser par le Führer à ce moment-là.
Voilà, donc Lucas qui va bouleverser toute la vision du monde de Max. Donc maintenant, il se pose des questions. Et si on peut s'en être plutôt dans la fin de la guerre, on est à la Napola, on est en 44, fin 40, 45, on commence l'empire nazi est en train de s'ébranler. Du coup, bon, il se pose des questions. Pourquoi est-ce que les juifs finalement sont
ressemblent-ils à
on voit toujours cette caricature qui a été publiée dans un journal en Allemagne avec un juif, une personne que, donc qui disent juif avec un énorme nez, des petits yeux de rapace, les oreilles décollées, sales, ou alors encore cette affiche avec une immense araignée qui dit, avec une légende qui dit comme les araignées, les juifs envahissent le monde en fait. Et tout ce qu'il a appris depuis son enfance en fait, parce que on voit que même en étant dans le ventre de sa maman, il est d'accord avec toutes les théories nazies, il est au courant de tout et il veut être parfait. Il veut tellement être parfait, il veut supprimer tous ses sentiments, toutes ses émotions. Et quand on voit que Sarah Cohen-Scali, dans ce livre, nous bouleversante en fait, parce qu'elle avait, en apprenant ces faits-là, qui sont, je rappelle, pas très connus finalement, moi j'ai appris dans ce livre en fait que cet épisode de la guerre avait existé.
Il a été maquillé par la suite, parce que c'est quand même atroce ce qui s'est passé à ce moment-là.
Donc, en fait, c'était une rumeur. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé, en fait, après la guerre? C'est que quand les Américains et les Anglais sont arrivés et les Russes, pardon, sont arrivés, ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce pût être possible, en fait. Ça leur a été tellement incroyable, comment est-ce qu'on pouvait faire ça? C'est une espèce d'utopie complètement, c'est aberrant, quoi.
Il faut quand même rendre compte que c'est une armée d'enfants
parfaits,
ariens, entre guillemets, qui a été créée quand même, une armée
qui était censée
entière
construire l'Allemagne nazie, en fait.
Et dans le but d'éliminer toute la race juive.
Juive, ouais, donc c'est assez... Juive. C'est dérangeant, le fait que ce livre soit choquant, on parle de 15 ans comme limite d'âge, mais il faut savoir qu'il faut avoir déjà une petite connaissance de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour vraiment comprendre, je pense qu'il faudrait, ça devait être un roman adulte plutôt qu'un roman pour adolescents. Donc une édition, c'est Gallimard, c'est dans la collection Scripto. Donc elle est remarquablement documentée, parce que tout est vrai et on voit que c'est vraiment fidèle à cette réalité historique.
Donc, à tel point que ça nous paraît presque irréel.
Ouais, c'est...
Tellement que c'est...
Ouais, c'est tellement...
Tellement que les faits réels en eux-mêmes sont choquants, et les informations qui sont données, ça nous paraît impossible que ça ait pu avoir lieu.
Ouais. Donc Sarah Cohen-Scali, donc... est née à Fès, au Maroc. Elle a écrit une quarantaine de livres avant celui-là, donc qui ont tous eu un succès mitigé. Et je pense que Max est son meilleur livre, qui a lui-même remporté le prix des sorcières en 2013, donc publié chez Gallimard Jeunesse.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
Eh bien, je pense qu'on pourrait donner nos avis sur sur les deux livres, ce qu'on a bien aimé et pas aimé. Mmh. Alors, personnellement, la poésie dans Les larmes de l'assassin qui m'a beaucoup touchée, ce qui m'a menée à le lire vraiment deux fois. Et ce développement de ce qui est incrusté profondément dans une personne, que ça peut quand même changer, et la possibilité d'avoir toujours un second chemin à prendre en quelque sorte. Après, Max m'a également beaucoup plu, parce qu'on a énormément d'informations, on apprend beaucoup de choses, et le personnage de Max, Conrad, est très bien dessiné, parce qu'il est, dès le début, il est profondément nazi, et lui-même aussi change de chemin, parce qu'il commence à changer de vision de son monde, et c'est très bien mis en scène par rapport à toute l'histoire qui se déroule.
Moi, je veux dire que même si Les larmes de l'assassin est un, je pense, un très beau livre, c'est une collection jeunesse, donc plutôt facile à comprendre, facile à lire, rapide aussi à lire. J'ai pas été entièrement séduite en fait par cette idée, parce que finalement, je trouve que seuls les personnages de Angela mériteraient d'être mis en lumière, d'être plus décrypté, parce que dans un roman qui est censé être philosophique, finalement, je trouve que...
C'est un peu général, on se concentre sur plusieurs personnes en même temps.
Je trouve que ça mériterait d'être plus long, en fait, pour qu'on puisse mieux analyser les différents...
La philosophie de l'assassin.
Caractéristiques, ouais, de ces personnages, en fait. Donc, je vais dire que Max a été vraiment une révélation pour moi. Donc, je l'avais déjà repéré dans les box Office. Je voulais le lire et j'ai été vraiment... ça m'a confirmé, en fait, mon envie de le lire, parce qu'il est absolument, en fait, vrai. Réaliste et c'est très, très bien écrit, je trouve, avec... une écriture très, 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 comment dire, assez crue finalement, puisqu'elle ne nous cache rien, elle ne cherche pas à passer par mille...
Elle utilise aussi les mots directs, sans faire vraiment de détours, je veux dire.
Mm-hmm. Enfin, je vais peut-être terminer par juste un extrait. Donc là, Max est en train de... dans sa deuxième partie, donc en Pologne, où il s'occupe de ses... camarades. Donc, voilà. Je réponds à mes petits camarades. Oui, des fois, je pense à Mamo. Je parsème mon récit de quelques mots en polonais pour le rendre plus authentique. Mais cette Mamo n'a plus de visage. Je raconte que tous les deux, on était dans une cave pour nous protéger des bombardements en Varsovie. Que Mamo a été touchée, qu'elle est morte et que je suis restée 3 jours sans boire, sans manger. Je serais mort, moi aussi, si une infirmière allemande, Josepha, ne m'avait pas trouvée et amenée au docteur Ebner. Dès que je prononce le nom du docteur Ebner, mes copains ont un mouvement de recul et leurs yeux s'emplissent d'effroi. Alors je me dépêche d'ajouter. Le docteur Ebner a l'air méchant avec son crâne chauve, sa grosse veine et ses yeux glacés, mais il est en réalité très gentil. C'est surtout un excellent docteur, car il m'a guéri de la déshydratation quand j'étais bébé. Je termine en disant que ce n'est pas si difficile que ça d'oublier sa mamo. La preuve ! Donc Max qui est l'exemple pour ses petits camarades polonais.
Tune in, drop out, I love, pull the trigger, I'm a hippie, soothsay, a truth in blood, alive and well, you push the button.
L'actu littéraire avec Victoria sur Cosmic FM.
Les mots étaient des serpents. Ils glissaient entre les doigts de Paolo, s'échappaient, le narguaient. Ils croyaient les attraper, mais leur courbure lisse demandait tant d'habileté qu'après un quart d'heure de chasse, la feuille de Paolo était pleine de symboles étranges et de ratures et de taches. « C'est dur, » déclara-t-il. Le désir de Paolo restait hésitant. Il devinait combien serait grand son pouvoir quand il saurait maîtriser les mots serpents. Mais en échange, il perdrait sans doute quelque chose de précieux. C'était comme lorsqu'il avait gagné l'amitié et la protection d'Angel. En échange, il avait perdu ses parents et il avait compris que tout se paie.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
19 avril 1936, bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi bénie des dieux germaniques, et l'on verra en moi le premier né de la race suprême, la race aryenne, celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur, conçu sans amour, sans dieu, sans loi, sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter, je hurlerai au lieu de gazouiller, je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn, initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de pures représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe, occupée par le Reich.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
Attends, l'interrompit Angel. Voilà ce que je veux te dire. C'est la vraie raison. Je t'ai cherché sur le port. J'ai crié ton nom partout dans la ville. Tu sais pourquoi ? Parce que tu m'aimes, demanda-t-il. Oui. « Mais tu ne seras jamais ma mère, » chuchota Paolo. « C'est vrai, » répondit Angel. Il s'assit par terre, souleva le corps de l'enfant, l'enveloppa de ses bras et le berça doucement, sans s'en rendre compte, il se mit à chanter.
Allemagne, 1936, programme Lebensborn ou le génisme nazi en action. On sélectionne deux géniteurs impeccablement blonds, grands et solides, au teint et aux yeux clairs, dont les ancêtres sont irréprochables depuis au moins 200 ans. Et on les fait s'accoupler, un minimum de fois, dans le noir, sans amour, sans tendresse, pour concevoir des bébés parfaits, dont les jeunes mamans feront don à la patrie. Max est le premier pur représentant de la race aryenne. Sa mère, c'est l'Allemagne. Son père, le Führer. Il a été conçu, programmé et sélectionné comme de milliers d'autres d'enfants pour assurer la régénérescence du pays. Sa mère n'a pas été restée longtemps avec lui. Il a vite été mis entre les mains des nourrices et dès qu'il a eu l'âge, il est entré dans une Napola, une école de jeunesse hitlérienne. Je ne sais pas encore comment je vais m'appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Heinrich. Max, comme Max Zollmann, le directeur administratif du foyer qui va bientôt m'accueillir, ou Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler, qui le premier a eu l'idée de ma conception, et de celle de mes camarades à venir.
L'actu littéraire avec Victoria, sur Cosmic FM.
Angel mit toute sa puissance, toute son énergie, toute son ardeur au service de Ricardo et du dernier arbre. Il passa la journée à courir le long du tronc couché, à élaguer les grosses branches avec la tronçonneuse, à donner des coups de hache dans les plus petites. Il bondissait, tirait, arrachait, assenait. Il transpirait, s'épuisait, il souriait. « Que crois-tu qu'il veut payer ton père, hein ?» demanda le vieux bûcheron d'un ton d'amusé. Paolo, qui regardait Angel se démener depuis le début, attendant sagement qu'on l'autorise à aller ramasser les brindilles pour en faire des fagots, se contenta de répondre l'évidence. Il voudrait rattraper le mal qu'il a fait. « Je ne pense pas qu'Angel ait pu faire du mal, » répondit Ricardo. « Oh si, » soupira Paolo. Il se tourna vers le bûcheron en souriant. Il était ravi de pouvoir surprendre un homme aussi vieux qui avait lu tant de livres. « Angel a tué des gens, » dit-il. « Mais chut !» Ne lui dites pas que vous le savez, il serait fâché contre moi.
Je crois que maman a eu mal lorsqu'elle s'est unie à mon père. Je crois qu'elle ne connaissait pas la signification du mot codé Schwester. Je crois qu'elle a failli renoncer et s'enfuir, elle aussi. Mais mon futur père et moi, nous l'avons encouragé. Mon père, en lui faisant boire une bonne rasade de schnapps pour la réchauffer, pour qu'elle se détende et se prête à son devoir. Quant à moi, Moi, qui n'étais alors qu'une vague idée dans l'esprit de maman, juste une voix intérieure, je ne cessais aussi de la stimuler en lui répétant « Il faut le faire, maman. Il le faut pour le mouvement national-socialiste, pour le Reich, pour ses 1000 ans de règne, pour le futur. » Alors, elle a gardé les yeux rivés sur le portrait du Führer accroché au mur dans la chambre claire et froide. Elle a serré les dents et elle a tenu bon. Elle l'a fait. Et je suis là. Et maintenant, il est minuit passé. J'y vais. Je sors. Vite, le plus vite possible. Je vais être le premier de notre heim à naître le 20 avril. Dans les salles d'accouchement, j'ai déjà plusieurs rivaux potentiels. Il me faut les devancer, ne serait-ce que d'une seconde. Encouragez-moi. Pensez à ce que je vous ai dit. Je dois être blond. Je dois avoir les yeux bleus. Je dois être vif. Élancé, dur, coriace, de l'acier et du creux.
Il regarda l'enfant, son petit visage bouleversé, ses mains frêles. Pour Paolo, il n'était pas trop tard. Et lui, Angel, n'avait pas le droit de le priver de tout cela. Il avait arraché cet enfant à la solitude. Maintenant, il devait le libérer. Angel étouffa un sanglot. En quelques secondes, sa décision fut prise. Il allait confier Paolo à Ricardo. C'était d'une telle évidence. S'il ne devait accomplir qu'un seul acte d'amour en ce monde, c'était là, ici, tout de suite. Donner sa chance à Paolo, lui offrir la possibilité d'une vie meilleure, ne pas l'entraîner plus loin dans une fuite insensée qui risquait de le détruire. Quand la musique se tut, Ricardo débrancha le phonographe. Lentement, il enroula le fil, replaça le disque dans sa pochette, puis referma le couvercle de la boîte.
Je sais qui sont ces bébés. Je sais comment ils ont été fabriqués. Je sais qui les a fabriqués, qui a demandé qu'on les fabrique, qui les a triés pour ne garder que les plus réussis. Je sais où vos soldats peuvent en trouver d'autres. Je sais tout. J'ai été le premier de ces bébés.
L'actu littéraire sur Cosmic FM.
Je pense que c'est la fin de
cette émission.
Actu littéraire.
Eh bien, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine émission et à très bientôt.